Je suis avec Gianluca Farinelli. Buonasera, piacere.
Buonasera, piacere mio.
È un grande onore, come diceva quando lei è arrivata. On va faire en français parce que vous parlez parfaitement
oui,
le français.
Non, c'est un horrible français, mais ça va. Je m'amuse à parler mal une langue.
Vous êtes ici à Genève dans le cadre de la rétrospective des films de Sergio Leone, intitulé Sergio Leone et le Western ressuscité. Et vous étiez récemment à Paris parce qu'il y avait une exposition dont vous étiez commissaire consacrée à Sergio Leone aussi par les cinémathèques françaises. Là, on entend des admirateurs qui viennent vous écouter. Et puis, vous avez récemment écrit avec un co-auteur, avec Christopher Freling, La Révolution de Sergio Leone. Donc, toutes ces manifestations, tous ces projets autour de Sergio Leone, comment sont-ils nés? Quelle est la genèse de toutes ces manifestations?
Cette année, Sergio Leone aurait fêté ses 90 ans. Donc c'est une année importante et je pense que c'est une de mes metteurs en scène moins compris au fond. C'est-à-dire qu'il n'a jamais gagné un prix international, il n'a même pas reçu une nomination.
Pour les Oscars par exemple.
Pour les Oscars par exemple. Et ces films ont été toujours adorés par le public, mais plutôt ignorés, sinon méprisés pour longtemps par la critique. Et alors, si aujourd'hui il y a un metteur en scène qui est présent dans les sources d'inspiration de metteur en scène d'aujourd'hui, c'est Sergio Leone. On peut retrouver quelque chose de lui dans les cinémas de l'Extrême-Orient, dans le cinéma sud-américain, dans le cinéma d'Hollywood, beaucoup moins dans le cinéma italien. Et donc, je pensais que ça valait la peine de le regarder un peu plus proche, parce que même les livres, à part l'incroyable travail qu'a fait Christopher Freling, qui justement a un regard de l'extérieur, donc un regard pas italien sur Sergio Leone, et qui très tôt a compris la valeur et l'ampleur du travail de Sergio Leone. Mais si je pense surtout à la critique italienne, je vois un vide. Et en effet, je repense à ma jeunesse. Moi, j'ai commencé à aller au cinéma grâce à mon père, qui aimait évidemment Jean-Luc Godard, La Nouvelle Vague, le nouveau cinéma des années 60. Et moi, je m'appelle Gianluca à cause de Godard, bien évidemment. Jamais Marie m'aurait amené voir un film de Sergio Leone. Je pense que c'est un metteur en scène sur lequel il faut absolument revenir. Et je pensais que la bonne façon, c'était de faire une exposition dans laquelle pouvoir retracer la culture de Sergio Leone, les travaux extraordinaires qu'il a fait, les inventions, et de faire ça en collaboration avec la Cinémathèque française, donc à l'extérieur de l'Italie, pour déplacer après, et ça sera en novembre de cette année, l'exposition en Italie. Et en effet, c'était nécessaire le succès de l'exposition à Paris pour avoir confirmation que Rome, ville natale de Sergio Leone, pouvait accueillir une exposition sur peut-être les plus grands parmi les metteurs en scène de ces villes. Parce que les autres grands n'étaient pas nés à la plupart des grands metteurs en scène italiens n'étaient pas nés à Rome, en effet. Et pouvoir accueillir l'exposition avec un texte qui recueillit plusieurs textes, notamment aussi de textes de Sergio Leone plutôt inconnus, Et donc, donner un nouvel élan, un nouveau regard à ces metteurs en scène, qui peut-être à cause de son succès n'a pas été trop regardé. En même temps, dans les dernières années, dans les dernières 10 années, nous avons, comme Cineteca di Bologna, travaillé sur toute l'œuvre de Sergio Leone, et nous avons restauré tous les films.
Les sept.
Même si certains, on a dû faire 2 fois la restauration, parce que quand on a commencé, c'était encore la grande époque du 35, et puis le digital est arrivé, donc parfois on a dû faire 2 fois la restauration. Et restauration qui est très importante, parce que je pense que les films de Sergio Leone sont extrêmement contrôlés. On a cette idée de metteur en scène populaire, pas très soigné, et c'est le contraire. Pour comprendre Sergio Leone, il faut voir que à l'intérieur de son œuvre, il y a la grandeur réaliste de Sica, mais en même temps, il y a la grandeur du connaisseur de l'histoire, d'un être capable, d'un artiste capable de reconstruire l'histoire sur l'écran, qui était l'art de Visconti. Donc, et aussi un technicien de premier degré, parce qu'il avait été assistant metteur en scène sur une trentaine de films, donc il avait une pleine connaissance de tous les métiers du cinéma. Et donc, même si son premier western, Pour un poignet de dollars, c'est un film fait avec 4 miettes de rien, qui a coûté 200 000 dollars, et qui a été fait sur le décor de l'Ombra di Zorro, donc d'un film de série B, quand même, il avait les idées très claires, et il jouait au fond toutes ses cartes. Donc, même à partir du premier western, il avait choisi un format, le 2P, qui lui permettait d'utiliser les grands écrans, mais il avait obtenu que les copies soient en technicolor, donc avec une saturation de couleurs qui était extrêmement importante. Donc, et ça devient de plus en plus profond pendant toute sa carrière. Il a une carrière dans laquelle, d'un film à l'autre, il rend toujours plus profond son travail, et il pousse ses idées de plus en plus hautes. Et donc cette qualité de l'image augmente de film en film. Et donc je crois que ça a été très important pour pouvoir reconstruire son œuvre aussi au point de vue de l'image. Et pour son dernier film, on a pu aussi remettre à sa place une vingtaine de minutes qu'il avait éliminées au dernier montage.
On peut parler aussi qu'il est révélateur de talent. On pense à Ennio Morricone et on pense à Clint Eastwood.
Oui, sans doute. Révélateur de talent, je pense aussi à son scénographe Carlo Simi, qui lui a donné de scénographies qui restent dans l'histoire du cinéma. Ennio Morricone, avec lequel il a travaillé pour chaque film, et qui a vraiment inventé une nouvelle dimension musicale. Moi, je pense que ce metteur en scène stupéfiant était extrêmement lié au cinéma de ses parents. Sa mère était actrice diva du muet, son père était metteur en scène du cinéma muet. Et je pense que son cinéma revient vraiment au muet dans la mesure que les images ont une force extraordinaire, les cadrages ont une force extraordinaire. Dans ces films, il y a trop peu de mots. Il y a une...
Une fluidité
qui fait penser à une danse presque, dans laquelle la musique, comme à l'époque du muet, joue un rôle capital. Mais en même temps, il est très lié à l'histoire du cinéma, il est très lié au film qu'il avait vu, il fait partie de cette génération de metteurs en scène qui cite les films qu'il a vus, qui ont formé son imaginaire. On est vraiment au premier temps d'une mondialisation de l'imaginaire. Donc, en même temps, il est très lié au passé, mais il est un novateur extraordinaire, par exemple, dans les acteurs. Et la découverte de Clint Eastwood est une découverte tellement importante qu'on a le plaisir d'attendre encore le nouveau film tourné et interprété par Clint Eastwood. Et comme toujours avec les grands acteurs, les grands acteurs sont des co-auteurs, je pense, d'un film. Donc, sûrement, Sergio Leone n'aurait pas eu le succès qu'il a eu s'il n'avait pas pu travailler avec Clint Eastwood. Mais néanmoins, c'est lui qui a vu dans le modeste acteur de la série télévisée Rewide, l'homme sans nom, qui aurait pu être le protagoniste de son premier film. Mais ce n'est pas seulement Clint Eastwood, c'est aussi Jean-Marie Volonté, donc un acteur important, un acteur classique, un acteur de théâtre, un acteur engagé, un acteur qui avait déjà commencé aussi sa carrière dans les cinémas, dans les films de grands metteurs en scène, qu'il transforme complètement dans un Mexicain assoiffé de dessin. Mais tout est nouveau dans un poignet de dollars. Tout apparemment est déjà vu, mais tout est nouveau. C'est ouest du sud, c'est ouest solaire, c'est ouest méditerranéen, c'est ouest moderne dans lequel la loi a disparu et dans lequel le protagoniste est tellement stylisé qu'on peut vraiment s'imaginer qu'il représente, comme en effet ça a été, les nouveaux héros qu'on peut voir aujourd'hui aussi dans les héros du cinéma contemporain. James Bond aujourd'hui probablement est plus lié au premier Clint Eastwood qu'au premier Sean Connery, je pense.
Alors, je rebondis sur vos propos, Gianluca Farinelli. On comprend que grâce à Sergio Leone, le West Ham qui se portait pas très bien quand il commence trouve un souffle nouveau. Il est ressuscité au sens de le cycle qui est organisé ici au cinéma du Grütli à Genève. Donc, il a donné vraiment un souffle nouveau, une impulsion qui a ressuscité ce genre.
Oui, le West Ham était en train de mourir. En même temps, Pour un poignet de dollars n'est pas le premier western européen. Les western européens existent depuis les années 10. Son père et sa mère Son père avait déjà dirigé Vampira Indiana dans les années 10, interprété par sa mère. Et à partir de la fin des années 50, en Allemagne, les westerns étaient en train de vivre une nouvelle époque. Néanmoins, sans l'apportation de Sergio Leone, c'est très probable que les westerns auraient terminé sa grande époque. Et en effet, aujourd'hui, le metteur en scène répare de Sergio Leone pour raconter la grande épopée américaine. Chose qui est assez étonnante si on pense que Sergio Leone ne parlait pas anglais. Et Sergio Leone a mis dans l'épopée américaine une quantité d'éléments européens et italiens que le genre américain, jusqu'à ce moment-là, n'avait jamais imaginé d'avoir.
Pourtant, comment explique-t-on que de son vivant, donc, vous le mentionnez, les critiques l'ont malmené, et d'autre part, que ce soit les Américains ou les Italiens, ils n'ont pas reconnu son talent et son génie?
C'est difficile de répondre à cette question.
La charmante star.
Non. Moi, je me pose souvent cette question. Je ne suis pas sûr d'avoir encore toutes les réponses. Moi, je pense... Bon, du côté... les metteurs en scène qui ont succès, je pense qu'ils sont regardés un peu de loin. Je pense à Simenon. Simenon n'a jamais gagné Goncourt. Mm. Il aurait dû le gagner, mais il n'a pas gagné. Et Sergio Leone, comme Simenon, n'arrive pas à être metteur en scène comme grand intellectuel. Simenon était nourri de littérature, Sergio Leone était nourri du cinéma, et il était très en avance. Parce qu'on pourrait dire Tarantino, c'est quelqu'un qui s'est nourri du cinéma et immédiatement il a été reconnu par la critique. Je pense que Sergio Leone est né dans une époque dans laquelle ses regards, il était trop novateur pour être vraiment compris, même si au fond il faisait la même chose que les Beatles faisaient sur la musique, où Godard faisait au bout de souffle, c'était un acte d'amour et aussi de total renouvellement de du noir, du cinéma noir américain, de la série B noire américaine. Mais Godard avait la capacité aussi de se faire entendre par les autres intellectuels et les critiques, chose que Sergio Leone n'avait pas la capacité et probablement n'avait même pas l'intérêt d'avoir ces regards. Mais au fond, je pense qu'il était trop en avance sur son époque. Et justement, c'est pour ça qu'on vit aujourd'hui dans une époque qui est vraiment le triomphe de Sergio Leone. On voit ses inventions partout, même pas seulement dans les cinémas. Je veux dire que les jeux vidéo sont un peu
inspirés
très très souvent de sa capacité de simplifier les histoires, de styliser les personnages, de jouer avec les mythes et les transformer dans quelque chose de populaire.
Et chorégraphique.
Et chorégraphique, oui, oui.
Je rebondis sur vos propos. Vous mentionnez qu'il est en avance sur son temps, Gianluca Farinelli, mais il était aussi, en fait, très inspiré. Il avait des sources d'influence diverses. Vous pouvez nous en parler?
Oui, c'était quelqu'un qui... c'était un intellectuel, c'était quelqu'un qui connaissait très bien l'histoire de l'art, c'était quelqu'un qui avait sa propre collection de tableaux, de meubles, de musique. Sa maison était presque un musée, tellement elle était pleine de collections. Ses fils m'ont raconté que le jour de la du funérailles de Sergio Leone, il y avait parmi les personnes, il y avait beaucoup d'antiquaires qui lui ont dit bon, aujourd'hui c'est mort un grand metteur en scène, mais il aurait pu faire l'antiquaire.
Grand collectionneur.
Oui, oui, comme grand collectionneur. Et puis c'était quelqu'un qui avait une immense curiosité. Donc, et cette curiosité allait dans toutes les directions. Donc, on peut s'étonner de découvrir qu'il traversait les décors. Del buono, il brutto e il cattivo, avec dans les mains les photos de la guerre de sécession. Ou que pour dessiner le décor, diceva una volta in America, il avait dans les mains le grand peintre américain du début du siècle, le grand photographe du début du siècle. Donc cette présence de la culture, de la grande culture, est partout à partir de son premier western, parce que même l'idée de appeler le protagoniste Nessuno, c'est bien évidemment une référence. Et quand il a perdu, Kurosawa a gagné le procès, donc a démontré qu'il avait copié Yojimbo, chose qui démontre encore une fois l'incroyable curiosité de Sergio Leone, sa capacité d'associer des montres lointaines et différentes. Il lui a répondu, peut-être j'ai copié, mais alors... On peut dire que nous deux, moi et Kurosawa, nous les deux, nous avons copié Goldoni et le serveur de deux patrons. Et en effet, c'est vrai. Donc il y a du Goldoni en Kurosawa et il y a du Kurosawa en Sergio Leone. Donc on peut pas imaginer que que son cinéma soit un cinéma externe à l'histoire de la culture, c'est les résultats de la culture humaine. Et c'est pour ça que ces films, ces œuvres ne vieillissent pas. Parce que les rapports avec la grande culture est très fort, mais en même temps, cette approche qui est lyrique et drôle, donne à ces films un élan que je pense va les rendre éternels.
Gianluca Farinelli, vous avez dit, je vous cite, de Sergio Leone que sa nationalité c'était le cinéma. C'est aussi la vôtre, n'est-ce pas?
Oui, mais je pense que tous nous qui aimons le cinéma, nous sommes des citoyens du cinéma. Et peut-être c'est la raison pour laquelle dans ces jours, on se sent un peu sans patrie.
On va revenir sur votre parcours. Vous êtes né en 63 et rapidement, dès 82, vous vous êtes retrouvé à ce qui allait devenir la Cineteca di Bologna. Depuis 2000, vous en êtes le directeur. Vous avez pu vraiment vous nourrir tout au long de ces années et apprendre les diverses facettes de ce lieu. Ce lieu, il regorge d'activités et surtout de documents. Vous pouvez nous en parler?
Oui, aujourd'hui, la Cinéthèque, c'est une institution complexe qui a des archives très importantes. Nous avons 75 000 films, plus que 2 millions de photos, plus que 200 000 affiches et des fonds très importants comme celui de Pasolini ou de Sica, une grande bibliothèque, une activité éditoriale importante. Chaque année, on publie une quinzaine entre DVD, Blu-ray et livres. Chaque année, on organise deux expositions importantes. Et puis nous avons un laboratoire de restauration, l'Imagine Retrovata, qui est désormais un des rares laboratoires qui continue à travailler les films, la pellicule, les 35 mm, et qui est spécialisé sur la restauration, donc qui ne fait que de la restauration, et qui travaille pour toutes les grandes firmes mondiales, de l'Extrême-Orient aux États-Unis, à l'Europe. Et puis nous organisons chaque année un festival qui s'appelle Cinema Ritrovato, qui a dépassé, qui a sa 33e édition et qui est un peu la mecque de la cinéphilie de toutes les parts du monde, donc autour de 2000 cinéphiles arrivent pour régénir l'amour vers le cinéma, et on fait les projections sur la grande place les soirs et pendant toute la journée dans quatre salles différentes. Donc ce que nous cherchons de faire chaque jour, c'est d'essayer de connaître mieux l'histoire du cinéma, regarder le cinéma du présent, essayer de trouver un lien avec les publics d'aujourd'hui, passer notre passion à un public jeune, faire connaître les films qui ne sont pas connus, les films qui nous pensons être importants mais qui n'arrivent pas à trouver un public aujourd'hui. En même temps, faire connaître les films importants, les films même qui ont du succès, mais dans leur édition originale, parce que comme vous le savez, en Italie, il y a encore le doublage et dans les salles italiennes, les films sont doublés. Donc, dans nos salles, on voit tous les films en version originale avec sous-titres. On essaye de protéger le film italien, les premiers films, et on essaie de s'inventer chaque jour des nouvelles parcours, parce que bien évidemment aujourd'hui le cinéma n'a plus la centralité que pouvait avoir quand j'étais enfant, et en Italie il n'y a pas des instruments nationaux pour passer les témoins vers un public jeune. Donc voilà, on essaye de faire ça à niveau local, mais aussi à niveau national, parce que une autre activité à laquelle on tient beaucoup, c'est la distribution en salle des classiques. Donc on achète les droits, parfois des films qu'on restaure, parfois des films qui ont été restaurés par d'autres. Et chaque mois, on présente dans une cinquantaine de salles en Italie le film restauré.
Le film restauré est quelque chose de très important pour vous. Si je ne m'abuse, votre sujet de lauréat de licence à l'université d'Urbino, c'était déjà le cas.
Ouais.
Et vous êtes considéré comme l'un des experts en restauration cinématographique majeure. Vous êtes sollicité pour votre avis, souvent. C'est quelque chose qui est primordial.
Oui. D'abord, je pense que quelqu'un qui connaît au fond la restauration doit tout de suite affirmer qu'il ne sait rien, parce que c'est vraiment un métier dans lequel il faut à chaque intervention recommencer à zéro, parce que chaque film demande une approche différente, et il demande vraiment de trouver toujours des solutions différentes. Donc oui, je pense que la restauration c'est une forme de traduction. Je pense que le cinéma a toujours le cinéma, c'est plusieurs choses, c'est un art, c'est une industrie, mais c'est aussi une technologie, et cette technologie a toujours changé. Déjà l'année suivante, les Lumières étaient déjà en train de bricoler, changer, et ses concurrents de faire la même chose. Donc, les technologies qu'on a aujourd'hui à disposition sont très loin des technologies d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 100 ans. Et donc, pour faire arriver le film à un public d'aujourd'hui, il faut utiliser les technologies d'aujourd'hui, chose qui risque toujours de changer de manière très fort les images, les sons d'origine. Et par exemple, parce que c'est inévitable que les nouvelles technologies amènent aussi un goût d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, par exemple, le digital nous permet de faire des choses impossibles seulement il y a 10 ans, mais aussi de changer de manière profonde, de manière très très grave aussi, la fragilité d'origine. Donc il faut garder l'attention très haute pour ne pas manipuler les images d'origine, ou en tout cas les manipuler le moins possible. Et dans les cas de films de Sergio Leone qui sont continuellement copiés, qui ont vécu plusieurs rééditions, évidemment le cas est particulièrement grave et important. Cela dit, moi je pense que la restauration ne peut pas améliorer ou rendre pire un film. Un film est grand ou pas grand, même si on le voit dans une version très 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 mauvaise. Mais pour moi, c'est très important cette notion du témoignage. Et pour passer les témoins, il faut passer les bons témoins, pas un faux témoin.
Et maintenant, je m'adresse au cinéphile qui est en vous. Quel est le dernier film qui vous a ému? Vous mentionniez The Mule tout à l'heure, Clint Eastwood, son prochain film comme acteur-réalisateur. Quel est le dernier film qui vous a ému, qui vous a fait pleurer même?
Alors, Mule va sortir la semaine prochaine, donc il faut attendre, je dois
patienter.
C'est le plaisir de la semaine prochaine, le jeudi de la semaine prochaine. Mais les films qui m'a vraiment profondément ému, ça a été Roma de Cuarón, que je trouve un film, je trouve le film du siècle. Et c'est un peu à Sergio Leone que je dis ça, parce que c'est clair, on a vécu seulement 18 ans de ce siècle, donc il faut attendre beaucoup de décennies pour affirmer ça. Mais néanmoins, je trouve que ce film a des qualités extraordinaires. ce film magique, c'est un film qui nous redonne les yeux de l'enfance. D'une enfance qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne savais rien du Mexique du début des années 70. Mais je me suis retrouvé dans les regards, dans ces regards d'enfants qui ne comprennent pas que ses parents sont en train de divorcer, qui pensent, comme tous les enfants pensent, que tout est éternel et immutable, et qui se souvient seulement de détails, donc de la voiture trop grande pour entrer dans les garages de la maison, et qui ne comprend pas que la grande histoire est à côté d'eux. Et en même temps, on regarde ça avec les yeux de notre maturité, et donc on reconnaît les mondes de ces années-là, mais aussi les mondes d'aujourd'hui, parce qu'en fond, les grands thèmes du film, c'est l'importance de connaître, de reconnaître la diversité et au fond que seulement la diversité peut nous sauver, qui est, je trouve, un message essentiel dans ce monde-ci qui est en train de courir à nouveau vers les guerres, vers cette idée folle que non seulement nous ne sommes pas, notre voisin n'est pas égal à moi, mais qui au contraire, qui notre voisin est un monstre. Et puis c'est un film qui nous fait regarder l'écran encore d'une manière très différente, c'est-à-dire c'est un film qui joue sur une qualité d'image étonnante, tellement énorme qu'on se perd à l'intérieur de l'image. Et puis c'est un film qui chante la gloire des femmes et la gloire du cinéma, parce que c'est vrai que c'est un film qu'on peut voir sur Netflix, mais moi je prends l'abonnement à Netflix et je le regarde en salle, et je me dis que, comme avant je disais, c'est un film qu'on peut voir même sur le petit écran d'un smartphone et ça reste un film immense. Mais si on veut vraiment tout voir, si on veut vraiment tout comprendre, c'est comme Le Guépard, comme La douceur de la vie, c'est un film qu'il faut voir sur les grands écrans, dans une salle, avec la concentration que seulement dans une salle on peut avoir, avec des gens qu'on ne connaît pas. Et donc, je pense que c'est vraiment le film qui chante plus la gloire du cinéma, qui démontre que le cinéma qu'on a aimé, que nous aimons, c'est encore un art du présent. Parce qu'on peut le voir dans d'autres supports, mais il ne sera pas jamais si grand comme sur l'écran d'une salle de cinéma.
Malheureusement, on doit vous quitter, Gianluca Farinelli, puisque vous êtes là au cinéma du Ritz à Genève pour présenter le cycle consacré à Sergio Leone. Vous êtes là donc le 28 et le 29 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste demander, est-ce que vous avez quelques projets à nous confier ?
Bah, plein de projets, mais alors il faut rester ensemble beaucoup de temps.
Ah, alors, soltanto gli auguro, tanti auguri per il suo compleanno il mese prossimo.
Grazie, grazie molto.
È stato un piacere, grazie.
Per me.